VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Abidjan, midi à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Mali, un soldat gouvernemental tué et 7 autres blessés lors d'une attaque mercredi dans le centre du pays. La seconde cette semaine contre les militaires maliens. Michel Joseph.
Les forces maliennes ont enregistré un mort, 7 blessés et un soldat porté disparu. Selon le communiqué officiel, un détachement de l'armée malienne est tombé dans une embuscade près de Diafarabé, dans la région de Mopti. Les assaillants ne sont pas encore formellement identifiés. La veille, mardi, 2 soldats ont été tués et un blessé dans l'attaque d'un poste militaire à Tombouctou. Malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et la rébellion, à dominance Touareg, les attaques des islamistes se sont étendues vers le centre et le sud du pays.
En Côte d'Ivoire, 7 djihadistes maliens présumés extradés vers le Mali après leur arrestation par les autorités ivoiriennes. Les suspects seraient tous membres de la Katiba, une unité de combattants appelée Khalid ibn Walid. Cette Katiba est dirigée par un certain Souleyman Keïta, qui serait ivoirien, selon Moussa Ouattara du journal Nord-Sud, joint à Abidjan par Idriss Fall.
L'imam Keïta Souleyman, d'abord c'était un ivoirien, il officie dans une cité à 13 villes, quartier d'Abidjan.
Et comment est-ce qu'un imam ivoirien de 13 villes a pu se retrouver au niveau des mouvements djihadistes?
Depuis l'éclatement de la crise au Mali, nos frontières sont poreuses. Donc ces personnes-là ont certainement eu contact avec cet imam. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois de cela, il y a un responsable du MLA qui a été arrêté même à l'aéroport d'Abidjan ici. Il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire a des liens historiques avec le Mali. Les gens se déplacent facilement. Il y a le contexte de l'après-crise en Côte d'Ivoire. La question des ex-combattants n'a pas été totalement résolue. Et donc, ces personnes-là sont prêtes à aller dans les aventures. On les sollicite, ils n'hésitent pas à aller.
Le nord de la Côte d'Ivoire est essentiellement musulman. Est-ce qu'il pourrait y avoir danger ou bien des cellules islamistes?
Le danger, il est réel. Parce que les services de sécurité et de renseignement ont même fait l'État. Pas le président de la République a pris un certain nombre de décisions, notamment en renforçant le dispositif sécuritaire à l'envoi de 150 militaires. Le premier BCP, qui est le bataillon commando parachutiste, au niveau de la frontière avec le Mali, notamment à Oudéné et à Ouangoulou-Douvou. C'est dans cette perspective de prévention du risque d'une éventuelle attaque. Ces dispositions ont été prises. Frontière étant poreuse, le nord de la Côte d'Ivoire qui est essentiellement musulman, on va dire que le terrain, il est propice parce que bon, les gens sont réceptifs au discours et au message prôné par ces personnes-là, les djihadistes.
D'autant qu'il n'y a pas longtemps, une quinzaine de personnes ont été arrêtées et se présentaient comme des membres de la secte Dawa dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Et c'est précisément à Tingrela. À Tingrela, ça c'est la frontière nord avec le Mali.
Moussa Ouattara du journal Nord-Sud, joint à Abidjan par Idriss Fall. La guerre contre Boko Haram maintenant, selon les toutes dernières statistiques de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, les violences attribuées au groupe islamiste ont fait plus de 2 millions de déplacés au Nigeria. Sur le terrain, l'armée nigériane, qui enregistre ces derniers jours des succès face aux djihadistes, a réintégré quelques 3 000 soldats accusés d'actes d'insoumission dans la lutte contre la secte islamiste. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, a précisé que 5 000 dossiers ont été examinés et 3 032 soldats ont été graciés, réintégrés et ont même débuté l'entraînement. Il a ajouté que les autorités militaires ont confirmé les condamnations de soldats qui avaient un dossier criminel sans préciser davantage. La justice nigériane devra décider du sort de 66 soldats condamnés à mort pour mutinerie et abandon de poste. Les condamnés ont déjà fait appel. L'année dernière, des militaires nigérians basés à Maïdigouri se sont même rebellés après avoir été assignés dans une région reculée pour combattre Boko Haram. Les épouses de ces soldats avaient même organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leurs maris comme chair à canon face à des islamistes mieux équipés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, grogne dans la fonction publique après l'injonction du président Idriss Déby Itno au nouveau gouvernement de supprimer les primes et autres indemnités des agents de l'État pour faire face à la baisse des revenus due à la chute des cours du pétrole. Le point avec notre correspondant Anjamena, André Kodmajingar.
Cette décision va créer une tension sociale, estime le président du syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad et vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, Younous Mahadir.
Les indemnités que nous autres avons obtenues, c'est un protocole d'accord qu'on a signé en bonne et due forme avec le gouvernement. Et il y a des organes qui sont créés pour pouvoir régler en cas de blocage ou de quoi que ce soit. On ne peut pas, parce qu'on est président de la République, on s'élève, on vient, on dit qu'on coupe. Est-ce qu'il va y avoir un affront avec les travailleurs? C'est une provocation. Hein? Mais je pense que ceux qui le conseillent sont en train de l'amener dans une voie carrément dangereuse pour lui, avec la question d'argent, des salaires, des indemnités, s'il joue ce qu'il joue avec le feu. Les manifestations qu'ils ne veulent pas, là, ils vont les avoir.
Le secrétaire général du syndicat des agents de l'administration générale du Tchad, Mahamat Hissène, demande au président de la République de renoncer à cette mesure. Car, dit-il, la situation des fonctionnaires tchadiens est peu reluisante.
Sur le plan national qu'international, les gens savaient que les fonctionnaires tchadiens vivaient dans des situations lamentables. Puisqu'ils n'arrivaient pas à s'inscrire son enfant à l'école, il n'a pas un logement décent. Donc moi je trouve que c'est des propos déplacés. Dès que l'acte sera matérialisé, il va nous trouver sur son chemin. La Constitution nous donne le droit de demander à nos différentes sections d'aller automatiquement en grève.
Pour le 7 syndicat des anciens du Tchad, ces primes et indemnités sont des acquis obtenus au prix d'une longue lutte et donc il n'est pas question de les perdre pour une raison quelconque. Bolmari Ngolao est le secrétaire national à l'information du 7.
Si l'État est en état de banqueroute, il doit chercher autre moyen pour résoudre le problème. Mais quant à vouloir retoucher les acquis, surtout en ce qui nous concerne, nous autres syndicalistes, ces primes et indemnités, nous savons comment nous les avions obtenues. Et si jamais nous les perdons, eh bien nous saurons comment nous pouvons donc les rétablir.
Toutes les organisations syndicales qualifient cette mesure d'impopulaire et dénoncent la mauvaise gestion de la chose publique et le manque de fonds de stabilisation du prix du pétrole pouvant permettre au Tchad d'amortir le choc économique. Par conséquent, telles ces organisations, il n'est pas question de sacrifier les agents de l'État pour la mauvaise gestion économique du pays. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Au Burundi, appel des ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Sécurité publique mercredi pour demander à la population de remettre les armes qui causent l'insécurité dans certains quartiers contestataires à Bujumbura. Des précisions avec notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Dans un délai ne dépassant pas 3 semaines, ces personnes armées qui tirent la nuit venue ont été priées de remettre leurs armes aux responsables en charge de la sécurité. Ainsi, ils ne seront pas condamnés par la justice burundaise. Depuis les manifestations du mois d'avril dernier, des centaines de personnes ont été arrêtées et sont actuellement détenues dans les différentes prisons du Burundi. Mais parmi elles, il y aurait des innocents. Pour la ministre de la Justice, le moment venu et après étude des différents dossiers, les innocents seront libérés conformément à la loi. Laurentine Kanyana.
Sur cette question alors, je vous demanderai de patienter un peu. On est à l'œuvre, on va continuer à travailler sur ces dossiers et on va essayer de respecter les délais prescrits par la loi. Ce que je sais, c'est qu'il n'y aura personne qui sera retenu par la justice, qui sera condamné alors qu'il est vraiment innocent.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Actualité américaine, le président des États-Unis Barack Obama reçoit aujourd'hui à Washington le roi Salman d'Arabie Saoudite. Sur fond de désaccord entre les deux pays alliés sur le nucléaire iranien et face au conflit au Proche et au Moyen-Orient. Félix Yepassi Zembrou.
C'est la première visite du roi saoudien à la Maison-Blanche depuis son accession au trône en janvier. Il s'agit pour lui de chercher à renforcer les relations entre deux alliés stratégiques, mais des désaccords subsistent. Le roi Salman n'avait pas pris part au sommet organisé en mai à Camp David par Barack Obama en vue de rassurer les pays du Moyen-Orient avant l'accord sur le nucléaire iranien. Concernant le conflit en Syrie, Riyad perçoit Bachar al-Assad, soutenu par l'Iran, comme une extension de la rivalité perse-arabe. D'après Ben Rhodes, conseiller de M. Obama, les États-Unis cherchent à isoler les extrémistes au sein de l'opposition syrienne. Autre pomme de discorde entre Riyad et Washington, le Yémen, où les rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, affrontent les loyalistes appuyés par l'Arabie saoudite, alors que Washington craint l'impact des frappes aériennes sur les civils. En fait, les États-Unis ont fortement réduit leur dépendance vis-à-vis des importations de pétrole brut, ce qui a contribué à la baisse des prix de l'or noir, principale source de revenus pour Riyad.
Et pour terminer, le drame des migrants se rendant en Europe, appel du haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés à l'Union européenne pour lui demander d'accepter jusqu'à 200 000 demandeurs d'asile pour faire face à l'avalanche de migrants qui cherchent à se réfugier en Europe. Dans un communiqué aujourd'hui, Antonio Guterres qualifie la crise actuelle des réfugiés de moment de vérité pour l'Union européenne. C'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.